Bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est un culte un peu particulier. La porte ouverte dont je suis antenne depuis plusieurs années, mais j'ai demandé pardon à Seigneur parce que j'ai parlé une seule fois et après l'antenne s'est éteinte. Donc cette année, je me suis réveillée. Donc j'ai refait, c'est la deuxième fois que je refaire un culte pour dimanche des persécutés. Eux, c'était le 13 novembre, mais comme avec du retard, Donc, le planning de notre culte, ça a permis que ça soit aujourd'hui, donc c'est pas la date qui importe. Donc, avant de commencer, je vais prier. Père éternel, bien-aimé, je te remercie vraiment pour nous qui sommes en France. Nous sommes dans un pays où nous pouvons encore croire en toi et proclamer la foi, notre foi, en toute sécurité et en toute liberté dans notre vie privée. Et je te remets ce culte pour les chrétiens persécutés, que ce message puisse vraiment nous encourager de vivre notre foi vraiment comme une lumière qui est aussi une vie qui est contre-courant de ce mode de vie, de ce monde. Que ce message, que les témoignages des chrétiens qui vivent dans ces pays persécutés puissent nous parler, nous encourager de vraiment vivre notre foi pleinement en France. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Alors, pourquoi ici ils disent que croire à contre-courant? Est-ce que vous avez bien nagé à contre-courant? C'est pas facile, hein? Et vivre à contre-courant, c'est pareil, c'est pas facile. Donc, là, on écoutera après. Mais notre Seigneur Jésus-Christ, avant d'aller au ciel, quand il a commencé l'enseignement, dans Matthieu 5, il a déjà prévenu les disciples de l'époque et même nous maintenant. Je vous encourage de lire ensemble. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande au ciel. En effet, c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Vous voyez, c'est quand Jésus a commencé son enseignement dans les béatitudes, il a déjà parlé de cette éventuelle persécution qui va se produire. Donc, il prépare déjà les chrétiens. Nous, les disciples de Christ, de savoir que nous vivons dans un monde qui n'est pas le royaume de Dieu, quoi. C'est pareil dans Jean 3, Jésus dit, et voici quel est ce jugement. La lumière est venue dans le monde et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leur manière d'agir était mauvaise. En effet, toute personne qui fait le mal déteste la lumière. Elle ne vient pas à la lumière pour éviter que ses actes soient dévoilés. Et Jean 7, verset 7, le monde ne peut pas vous détester. Le vous, il parlait à ses frères qui sont venus à l'époque lui dire d'aller à la fête des tentes. Et Jésus dit, tant que moi, il me déteste parce que je témoigne à son sujet que sa manière d'agir est mauvaise. Donc, en fait, ici, le Seigneur nous rappelle que vraiment, son royaume n'est pas de ce monde et son règne est actuellement dans notre cœur et le monde est encore sous la puissance du mal, sous le péché et le mode de vie de ce monde n'est pas selon la volonté de Dieu. C'est pourquoi nous qui sommes ses enfants, les disciples de Jésus, Dieu nous demande de vivre selon sa volonté, donc c'est contraire à la volonté de Dieu. Je ne sais pas si moi, quand j'étais médecin dans mon cabinet, j'ai amené une une amie à croire en Jésus-Christ, après, quand elle lisait la Bible, elle me dit, Eliane, tout ce que on a appris là, c'est à contraire de ce que le monde vit. Je lui dis, oui, c'est ça, c'est, le monde nous demande de mentir, de tricher, de voler, plein de choses, comme ça, quoi. Et Dieu, qu'est-ce que Dieu nous demande dans les commandements? Nous, on savons, tout le monde sait que mentir est mauvais, mais le prétexte, c'est quoi? Bon, tout le monde l'a fait, c'est pas grave. Moi, avant que j'étais chrétien, pareil, j'ai triché, et quand on me dit, je dis, les autres trichent aussi, pourquoi j'arrête? Si j'arrête, c'est que je tire pas profit. Donc, ce matin, j'en ai partagé avec les jeunes, les ados, j'ai parlé un peu, et j'ai parlé des choses, peut-être ça les a choqués, ils sont assez purs, notre jeune. J'ai demandé, est-ce que vous remarquez qu'ils sont en troisième, en seconde ou en quatrième? Est-ce que tu as remarqué que les garçons, ils fréquentent les filles? Ils ont dit, pas trop. Mais moi, j'ai dit que oui, mais ça, c'est la mode de ce monde. Et c'est vrai que pareil, quand j'étais dans mon cabinet, au départ, j'étais assez au début, la première fois, il y a des filles de 13 ans qui sont venues me consulter, demander de prescrire la pilule. Bon, je lui dis, à 12 ans, à 13 ans, oui. Et les parents me répondent, je préfère qu'ils prennent la pilule que d'être enceinte. Vous voyez? Ça, c'est le mode de ce monde. Voilà, j'ai dit aux jeunes, donc, dans la Bible, Dieu n'a pas dit ça. J'aurais dit, hein, ils sont d'accord. Merci Seigneur. Je lui dis, Dieu nous demande de garder la virginité jusqu'au jour du mariage. Il n'y a pas de relation sexuelle avant le mariage. Donc, vous voyez, tout ça, c'est contre-courant. C'est pareil, je lui demandais, est-ce qu'ils fument? Ils disent que non, mais pareil, plein de choses comme ça. Je ne sais pas, est-ce que vous êtes déjà fumé, vous? Oui? Bon, si vous arrêtez, c'est bon, quoi. Mais je suis étonnée, je faisais des visites médicales à des élèves qui sont professionnels, et à chaque fois, je pose des questions, parce que c'est obligé dans ma questionnaire. Est-ce que tu bois de l'alcool? C'est toujours non. Après, est-ce que tu fumes de cigarettes, cannabis, chicha, hachis ou je ne sais pas quoi? Ils disent non. Mais je lui dis, tu as le droit de me dire oui, hein, parce que moi, c'est juste les documents médicaux. Je ne les dis pas aux autres, donc... Mais la plupart, ils disent non. Bon, merci, quoi, parce que quand même, mais dans les lycées, dans les collèges, vous êtes au courant, il y a des trafics de cannabis, il y a plein de choses comme ça. T'es pas au courant, Mike? Voilà, même dans Jean 15, hein, Jésus prévient ses disciples avant de partir. Vous voyez? Vous voulez lire ensemble? Oui? Si le monde vous déteste, sachez qu'il m'a détesté avant vous. Si vous étiez du monde, le monde vous aimerait car vous serez à lui. Vous n'êtes pas du monde, mais je vous ai choisi du milieu du monde. C'est pour cela que le monde vous déteste. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dit. Le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais s'ils vous feront tout cela à cause de moi, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. En fait, toutes ces paroles, c'est pour nous dire, nous prévienne qu'un jour, la persécution nous arrive. Et qu'on ne dit pas pourquoi, Seigneur. Pourquoi dans notre pays et pas dans l'autre pays? C'est vrai que actuellement, en France, on n'est pas encore persécuté comme les autres pays dans le monde, mais nous avons vraiment à préparer, à vivre notre foi vraiment vivant, attaché au Seigneur, pour que le jour, quand les difficultés les arrivent, nous tenons bon, quoi, nous tenons ferme. Voilà, donc c'est vraiment, Jésus a prié aussi pour nous, pour que nous sommes vraiment... Tout ça pour nous dire que vraiment le royaume de Dieu n'est pas dans ce monde. Ce monde est corrompu et perverti et vraiment rempli de péché. C'est pour cela que Dieu nous a prévu déjà un nouveau monde. Apocalypse 21, verset 4. Un nouveau ciel, un nouvel monde où le mal, tout ce péché n'existe plus. Dieu essuiera les larmes de nos yeux. La mort ne sera plus. Il n'y aura ni deuil, ni cri, ni douleur. Voilà, donc, je vais vous faire passer la vidéo, Denis. Ça dure 5 minutes.
Quand on est chrétien au Vietnam, on nous remarque du fait que notre mode de vie, notre manière de parler, notre comportement. C'est pour ça que nous avons des problèmes avec notre entourage.
Beaucoup se moquent de moi et disent des choses horribles qui me rendent très triste. À chaque fois que je les entends, ça me brise le cœur.
Les gens de mon village et ma famille remettent en question. Ils disent : pourquoi crois-tu en Christ ? Qu'est-ce que cela t'apporte ? Ce n'est pas notre religion. Notre religion, c'est l'hindouisme. Ceux qui adhèrent à la religion chrétienne sont méprisés. Ce sont les infâchés. Ils me menacent et me persécutent.
À plusieurs reprises, nous avons vu les hindous manifester avec leur slogan contre les chrétiens. Ils parlent d'éliminer les chrétiens, d'éliminer les pasteurs de l'Inde, de supprimer les étrangers, de placer les divinités Rama et Krishna dans les églises.
Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes une ville sur un sommet. Une ville sur un sommet ne peut être cachée. Aujourd'hui, alors que l'Église fait face à un regain de persécution de la part du gouvernement, même si vous voulez vous cacher, vous ne pourrez pas.
De quoi l'accusait-il ?
Accusé ?
Oui, qu'est-ce qu'il disait qui n'allait pas ? Quel était ton crime ?
Ils ont dit beaucoup de choses qui n'étaient absolument pas vraies. Ils m'ont traité comme un opposant politique. Ils m'ont dit « tu t'opposes au gouvernement » parce qu'il s'agit d'une république islamique. Donc évangéliser au nom de Jésus, c'est contre notre loi. Ils ont aussi dit que j'insultais leur saint, ce qui est un total mensonge. Je suis resté en prison pendant 3 ans et 1 mois. Wow, le premier jour de prison. En fait, même si je voulais l'expliquer, c'est inexplicable. C'est un autre monde. Nous pouvions faire confiance à rien ni personne dans cette situation. Nous pouvions seulement prier, nous accrocher à Dieu avec un profond sentiment de peur et d'angoisse.
Tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, survinrent les sacrificateurs, le commandant du temple et les Sadducéens, mécontents de ce qu'ils enseignaient le peuple et annonçaient à la personne de Jésus la résurrection des morts. Ils mirent les mains sur eux et ils les jetèrent en prison jusqu'au lendemain. Le lendemain, les chefs du peuple, les anciens et les scribes s'assemblèrent à Jérusalem. Ils furent placés au milieu d'eux, Pierre et Jean, et leur demandèrent : par quel pouvoir, au nom de qui avait fait cela ?
Dieu m'a parlé. Avant qu'il ne me parle, j'avais ce sentiment que si j'étais en prison, c'était de ma faute. C'était à cause de ce que j'avais fait de mal, et Dieu me punissait. Mes prières étaient tout le temps centrées sur moi. S'il te plaît, Seigneur, pardonne mon péché, change mon attitude. Ça ne tournait qu'autour de moi.
This kind of prayer, that it was just about me.
Un jour, Dieu m'a parlé. Il m'a dit, moi je t'adore, arrête d'être égoïste. Tu es en prison maintenant, ce n'est pas à cause de toi, c'est à cause de moi. Regarde autour de toi. Et j'ai regardé autour de moi. Et j'ai vu tous ces gens, ces pauvres gens. beaucoup de gens qui ont commis tous ces crimes dans leur vie. J'ai vu les pécheurs, ceux avec qui Jésus s'asseyait, ceux qui l'aimaient. Et Jésus me disait, c'est le moment de leur annoncer ma parole, parce qu'ils ont besoin de moi. Personne d'autre ne peut le faire.
No one can do it. Of people.
100% des gens environ sont musulmans. Et surtout en prison, le christianisme est quelque chose de très étrange. Quand nous répondions aux prisonniers que nous étions ici parce que nous sommes chrétiens, ils étaient choqués.
Wow,
c'est un crime d'être chrétien? Et dans cette situation, ils sentent vraiment qu'ils sont pécheurs et qu'ils ont besoin de quelqu'un pour les aider. C'est facile pour eux d'accepter Jésus comme leur sauveur. Dieu a dit, rien ne peut m'arrêter. Qui peut m'arrêter? C'est important d'y penser, le royaume de Dieu. Peu importe qu'on soit en prison ou à l'extérieur, peu importe notre situation, ce qui importe, c'est ce que tu fais pour le royaume de Dieu. Si tu changes ta perspective, tout sera différent. Tu ne vois plus la culture de ton pays ou ce que le monde dit sur toi. Tu vois juste la volonté de Dieu pour son royaume.
Oui, donc maintenant, on a lu tout à l'heure, vous avez lu tout à l'heure, donc il parlait de l'apôtre Jean et l'apôtre Pierre. Justement, les chrétiens du premier siècle, au départ, ils étaient une centaine. Il faut remonter vers Actes 2, au jour de la Pentecôte, quand ils ont reçu Jésus avant de monter au ciel, leur a dit de rester à Jérusalem, attendre qu'il reçoive une puissance d'en haut, pour qu'il soit témoin de Dieu depuis Jérusalem, la Judée, Samarie, jusqu'à l'extrémité du monde. Donc, ils ont attendu ensemble, prié, jeûné, et le jour de la Pentecôte, 10 jours après l'ascension du Seigneur, ils ont reçu le Saint-Esprit qui descend comme une langue de feu sur eux. Ils ont prié chacun, loué Dieu dans la langue maternelle. À l'époque de la Pentecôte, il y a les Juifs du monde entier, ils sont venus à Jérusalem pour célébrer Dieu dans le judaïsme. Dans les Juifs qui viennent d'ailleurs, ils ont entendu les apôtres qui ont reçu le Saint-Esprit louer Dieu dans leur langue maternelle locale. Et ils ont demandé aux apôtres, est-ce qu'ils sont ivres? Qu'est-ce qu'ils arrivent? Et Pierre, rempli du Saint-Esprit, il a prêché l'évangile et il a demandé à l'assemblée de se repentir et de croire en Jésus-Christ. Pierre a donc prêché Jésus ressuscité, le Jésus qu'ils ont rejeté et tué. Et là, il y avait 3000 personnes qui sont rajoutées à l'assemblée. Petit à petit, ils sont devenus, tant qu'ils sont en privé, qu'ils ne dérangent pas l'ordre biblique, le Sanhédrin, les chefs des prêtres les laissent tranquilles. Mais un jour, Pierre, il a guéri un homme parisé devant la porte du temple, et à partir de là, il y a la foule, il y a tous les gens qui glorifient Dieu et tout ça. C'est pour ça qu'ils ont arrêté Pierre et Jean et leur a interdit de prêcher au nom de Jésus-Christ. Voilà, donc là on va voir, voilà le contexte, ils étaient à peu près 5000 personnes. Donc ça, je vous ai parlé. Alors, qu'est-ce qui provoque la persécution? Parce que les disciples touchent au statu quo religieux. Parce qu'avant que Jésus apparaisse, avant que Jésus enseigne, le peuple suit le judaïsme, c'est la religion de l'Ancien Testament. Donc, voilà, et c'est le chef des prêtres qui ont le pouvoir, les pharisiens, tout ça, ils sont aimés et respectés par le peuple. Mais avec Jésus, Jésus a prêché avec l'autorité qui vient de Dieu, tout ça. Du coup, ils sont, la lumière, les caméras ne sont plus sur eux, c'est sur Jésus. En plus, Jésus a fait beaucoup, beaucoup de miracles, prodiges et tout, chasser les démons. Du coup, leurs statuts religieux sont touchés. Ça, c'est, ils dérangent la paix sociale. Parce qu'à l'époque, ils sont sous l'Empire romain. Donc, là, s'il y a des attroupements, les Romains vont dire que c'est leur faute. En plus, Pierre a dit que ce sont les Juifs qui ont crucifié Jésus. Mais c'est vrai. Le jour de l'entrée de Jésus dans Jérusalem, ils étaient tous gelés. Ils vont mettre des manteaux, les feuilles paniers par terre et ils ont chanté « Hosanna, béni soit le nom, celui qui vient au nom du Seigneur ». Et puis quelques jours plus tard, c'est la même foule qui criait avec les chefs des prêtres pour dire « Crucifiez-le, crucifiez-le ». Vous voyez, la foule est... Et puis, ils ont annoncé en plus la résurrection de Jésus-Christ. Donc là, il y a un témoignage de Michel Yat, c'est un de Soudan. Je vais vous le lire parce qu'il n'est pas sur... Où est-ce que je suis vue ? Excusez-moi, pourquoi j'ai perdu une partie de mes... Le témoignage, je ne lis pas. Bon. Ouais, en fait, c'était sur papier. Je croyais que je l'avais sur moi. Donc, ça, c'est... Alors, les sources de l'opposition, Pierre et Jean sont arrêtés à la fois par les sacrificateurs, le commandant des temples et les sadducéens. Ils dérangent l'ordre public, on a vu. Quand ils ont guéri le paralysé devant la porte du temple, dans le témoignage de ce pasteur, il a prêché la lumière du monde. Et il a dit, une lumière, ça doit être vraiment changer le monde. Et là, ils ont la Chine, vous savez que depuis 2018, ils ont mis tous les caméras et tout dans les églises pour surveiller vraiment tout le monde. Et là, le pasteur et certains membres de leur église ont été emprisonnés parce que ils préféraient continuer à prêcher les gens visibles et ne pas renier sa foi. Est-ce que je peux avoir un temps pour aller chercher le témoignage? Désolée de... J'étais ce matin avec les jeunes. Désolée. Donc, je vais vous lire le témoignage de Passeron. Alors, en Chine, le Passeron Chi, son épouse Jiang Hong et d'autres responsables de leur église de 750 membres s'attendaient à être arrêtés un jour ou l'autre. C'est ce qui s'est passé le 9 décembre 2018 à Chengdu, dans la province de Sichuan. Ce dimanche soir, plus d'une centaine de fidèles ont été interpellés à l'église, à leur domicile ou dans la rue. S'ils ont pour la plupart été libérés après avoir été interrogés, Wong Shi et 10 responsables sont restés en détention. Ils encourent une peine de 15 ans de prison pour incitation à la subversion contre le pouvoir de l'État. Quelques semaines avant d'être arrêté, le pasteur Wong Yi a rédigé sa déclaration de désobéissance fidèle. En voici un extrait. La Bible nous dit de respecter les autorités, mais elle ne nous dit pas d'aller à l'encontre de notre conscience ou du message de l'Évangile. L'Église utilise donc des moyens pacifiques pour manifester sa foi et répandre l'Évangile. En tant que pasteur, ma désobéissance fait partie du mandat de l'Évangile. Le grand mandat du Christ exige de nous une grande désobéissance. Le but de la désobéissance n'est pas de changer le monde, mais de témoigner d'un autre monde. Voilà, avant. Je vous parlais de témoignage, je vais lire le témoignage de. Ça m'a reçu. Ça marche plus. Denis, tu peux m'aider? Oui. Oui, Michel Sou. Ouais, là, je vous lis les témoignages de Michel Yat. Il est emprisonné au Soudan parce que sa foi était trop visible. De passage à Khartoum, la capitale du Soudan, le pasteur Michel Yat a été emprisonné pendant 6 mois pour avoir prêché une seule fois. L'église dans laquelle il a parlé avait été partiellement détruite par les autorités soudanaises. Tout comme Pierre et Jean, Michael a dérangé la paix sociale en dénonçant la vente controversée des terres et des biens de l'Église, ainsi que le mauvais traitement que subissent les chrétiens au Soudan. Inculpé et risquant à la peine de mort, il se retrouve en cellule avec 17 autres détenus. Là, il annonce la résurrection de Jésus. C'est une occasion rêvée pour transmettre l'Évangile. Quand je leur ai expliqué que je risquais la peine de mort, ils m'ont dit « Mais pourquoi es-tu si joyeux s'il veut te tuer ?» J'aurais parlé du Christ et du ciel. Beaucoup de condamnés ont pu entendre l'Évangile. Une partie de ceux qui ont été conduits au Christ ont été plus tard exécutés. C'est une consolation de savoir qu'ils sont allés auprès de Jésus. La plupart, je pense que, comme parlait l'autre jeune iranien, Dieu les a mis en prison pour qu'ils prêchent l'Évangile aux prisonniers. C'est le moment, l'occasion, quoi. Sinon, les prisonniers n'ont jamais entendu. Pourquoi ça revient à... Ils dérangent l'ordre religieux. Donc là, c'est en Iran. L'Iran, c'est un pays vraiment islam au maximum. Alors, c'est un pasteur aussi. L'Iran est une république islamique où les chrétiens n'ont pas le droit de prêcher publiquement. Il est interdit aux musulmans de changer de religion. Mais le pasteur Mehdi Dibach préférait obéir à Dieu plutôt qu'à l'homme. Secrètement, il évangélisait les musulmans et beaucoup d'entre eux ont accepté Christ. Dans les années 90, Mehdi et 2 autres responsables chrétiens iraniens ont été emprisonnés pour avoir prêché aux Iraniens musulmans. La vie en prison du pasteur Dibach était dure. Un jour, les autorités l'ont isolé des autres prisonniers et l'ont placé dans une cage mesurant 1 mètre carré. Pendant plusieurs semaines, il a été comme un animal en cage. Pourtant, il ne s'est jamais plaint à Dieu et n'a jamais remis en question la volonté de Dieu pour sa vie. Après 9 ans et demi de prison, il a finalement été libéré et a retrouvé sa famille. Mais les fondamentalistes musulmans étaient mécontents de cette libération. Quelques mois plus tard, le corps du pasteur Dibach a été découvert poignardé. Il avait dit « Je préfère être en prison et être proche de Dieu plutôt que de vivre dans un château sans Dieu. Wow. Je préfère être en prison et être proche de Dieu que de vivre dans un château sans Dieu. » Sa foi est... Ouais. Alors là, maintenant, c'est les Sadducéens. Ils défendent Jean et Pierre de parler de Jésus-Christ. On leur défend d'aller à contre-courant. Oh, après, il y a le témoignage des Algériens, normalement. Voilà, ils ont défendu, ils ont dit, jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu, car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. J'espère que pour nous, c'est pareil. Quand le moment de plus difficile arrive, on préfère obéir à Dieu qu'aux autorités, comme l'a écrit le pasteur chinois. Donc là, c'est deux personnes en Iran, en Algérie plutôt. Oui, c'est mal, ils ont mal tapé là, c'est en Algérie. Amarouche et Sadaoui forment un jeune couple chrétien d'arrière-plan musulman. Tous deux viennent d'un village de Kabylie, une région montagneuse où l'Église connaît la croissance la plus rapide parmi la population berbère. Leur changement de religion leur a valu quelques difficultés. Ils sont les seuls chrétiens de leur famille. Au travail, j'ai peur de la persécution. La pression est pratiquement quotidienne. Je suis policier et chaque matin, je me dis que c'est peut-être mon dernier jour dans cet emploi. Je dis franchement que je suis chrétien, mais je fais bien, très bien mon travail. C'est Amarouche qui dit comme ça. Alors, Sadaou a subi les pressions d'un cousin qui était très opposé à sa conversion. Aujourd'hui, ce couple sont responsables de jeunesse dans leur village. On y compte 60 jeunes chrétiens entre 16 et 30 ans. Les jeunes de notre église sont très actifs. Je me suis convertie la même année que 4 d'entre eux. Maintenant, nous sommes tous les 5 engagés dans la communauté, dit Amarouche. Il espère que l'église gagnera encore en maturité dans les années à venir et que beaucoup plus d'hommes et de femmes serviront Dieu. Nous avons pour vision d'atteindre les 40 villages de notre région et d'implanter une église dans chacun d'eux. Les Kabyles ont soif de l'évangile. Ils constatent que la foi musulmane mène à une impasse et ils voient le témoignage que nous, petite minorité, nous rendons. Dieu est à l'œuvre. Nous voulons enseigner comment amener les gens à devenir de vrais disciples qui tiennent bon dans la foi. Voilà. Pour conclure, la foi chrétienne était visible au travers de ma vie, la vie de notre église, dans notre quartier ou notre ville. Quels risques courons-nous? Comment pouvons-nous prier pour les chrétiens persécutés? Mettons-nous à leur place. Là, il y a des sujets de prière. porte ouverte, ils ont donné cette liste. Ils nous demandaient de prier pour les chrétiens du Soudan. On a lu le témoignage pour le pasteur chinois, Wong Yi, pour les chrétiens iraniens, pour l'église cubaine, pour l'église algérie. Je pense qu'après le culte, on se met en petite groupe et puis je vous donnerai peut-être plus en détail les sujets de prière. Alors, oui, c'est ça. C'est pour ça que j'ai fait la copie. C'est pour ça que j'ai laissé la copie. Alors, il vous propose, et moi je vous propose, si vous voulez vous engager à signer un engagement comme le pasteur Wong Yi l'a fait, engagé à vivre à contre-courant pour le Seigneur. J'ai fait une dizaine de pour vous personnellement, hein, vous signez, vous vous engagez devant le Seigneur. Moi, je suis pas. Si vous en voulez, vous venez me, je vous donne les imprimés après. Parce que là, Porte Ouverte a proposé de faire en récit, mais bon, je vais pas vous obliger. Disons vraiment d'obéir en cas d'extrême choix, comme Jean et Pierre, plutôt obéir à Dieu qu'obéir à l'autorité. Il nous appelle pas à être des révoltants, hein, c'est simplement... Alors, il y a quelques projets sur le terrain, parce qu'en Chine, il manque les leaders jeunes. Donc là, il faut vraiment prier pour qu'il y ait des formations pour les leaders jeunes. Je pense qu'il n'y a pas qu'en Chine, hein, en France aussi, hein, partout là. Et au Myanmar, c'est un pays bouddhiste, il me semble. Hein. Les chrétiens sont tiraillés entre rivalité ethnique et oppression bouddhiste, vous voyez. Et au Niger, la corruption et la montée de l'islam sont une menace. Et c'est pour ça que Porte Ouverte, ils demandent aux gens de faire des dons pour qu'ils puissent aller là-bas sur place pour les aider. Quoi. Voilà, ils vous remercient d'avoir écouté ce culte chrétien persécuté. Et puis là, c'est le Saint-Seine et Porte Ouverte nous a proposé. Il faut penser que les chrétiens persécutés, souvent, ils ne peuvent pas rentrer un culte ensemble. Donc, ils n'ont pas toujours l'occasion de partager la scène ensemble. Donc, aujourd'hui, Porte Ouverte nous demande, quand nous allons partager la Sainte-Seine aujourd'hui, que chacun de nous prend un autre morceau de pain, un autre coupe, pour que représenter le chrétien persécuté dans le pays qui n'a pas pu venir à la scène. Voilà, c'est pour ça que j'ai prévenu pasteur et Esther de préparer double portion. Donc, nous serons bénis double portion aussi. Voilà. Bon, j'ai terminé, j'ai prié. Père, nous te remercions pour ce message de Porte Ouverte pour les chrétiens persécutés. Merci de nous rappeler que vraiment, il y a beaucoup de frères et sœurs qui vivent encore dans ces pays qui sont vraiment persécutés à cause de leur foi en Jésus-Christ, que vraiment tu nous aides à vivre notre foi vraiment vivante et mettre en pratique, que leur témoignage puisse nous encourager à toujours garder nos yeux fixés sur toi, sur ce Dieu qui est mort pour nous, qui est ressuscité, qui intercède pour nous et vraiment qui nous bénisse toutes des bénédictions. Que nous vraiment nous puissions te suivre jusqu'au bout, même devant les menaces, devant les persécutions, que chacun de nous puisse tenir bon et que tu encourages aussi que nous puissions nous tenir bon ensemble pour soutenir aussi, que nous ayons une pensée régulièrement pour ces frères et sœurs qui vivent dans la persécution, de venir vraiment les soutenir aussi bien dans la prière ou financièrement pour aider vraiment qu'ils puissent continuer à tenir ferme dans la foi. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Passe. Oui. Tu as un sentiment. On fait la prière d'abord ou la Sainte-Seine après? On fait la scène et puis on prie après. Oui. D'accord. Voilà, personne n'a pas besoin de...
Ah, bonjour à tous. Merci à Eliane qui partage le message de persécution. Donc, nous avons cette privilège de liberté aussi de prendre la Sainte Seine ensemble en France. Je vais lire un texte que Paul qui parle qu'est-ce que c'est la Sainte Seine, qui situe dans le 1 Corinthiens chapitre 11 verset 23 jusqu'à 29. Car voici la traduction que j'ai reçue du Seigneur et que je vous ai transmise, le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré pour être mis à mort, prit du pain, et après avoir prononcé la prière de reconnaissance, il le rompit en disant, « Ceci est mon corps, il est pour vous, faites ceci en souvenir de moi. » De même, après le repas, il prit le coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance de mon sang. Faites ceci toutes les fois que vous en boirez en souvenir de moi. Donc, chaque fois que vous mangez de ce pain et vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur, et ceci jusqu'à son retour. C'est pourquoi quiconque mangerait le pain ou boirait de ce coupe du Seigneur d'une manière indigne se rendrait coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine sérieusement lui-même et qu'alors il mange de ce pain et boive de cette coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner ce qui est le corps se condamne lui-même en mangeant et vivant ainsi. Paul nous rappelle que le moment de Sainte-Seine, nous devons faire attention. Chacun doit s'examiner avant pour prendre ce coupe et ce pain. Le Seigneur, il est crucifié sur la croix pour notre péché. Auparavant, notre désir, notre pensée, ils sont contre le Seigneur. Et grâce, par sa grâce, par la grâce du Seigneur qui établit la bonne relation entre Dieu et nous-mêmes. C'est ça l'identité, la vraie identité d'un chrétien. Et nous vivons dans un monde qui change rapidement. Le monde est changé rapidement. Et chaque jour, nous recevons pas mal de messages qui nous attirent vers le mauvais désir, qui peut nous influencer dans un état qui peut nous mener vers une tentation très grave. C'est pour ça que grâce à, une fois par mois, la Sainte Cène nous rappelle notre identité. La vie des chrétiens doit suivre la volonté de Dieu et vivre dans la volonté de Dieu. Voilà, nous sommes dans la période Noël, le mois de décembre. C'est la dernière Sainte Cène de l'année 2019. Et c'est le bon moment que nous devons examiner, réfléchir l'amour, la passion que Jésus-Christ qui nous a donné. Examiner est-ce que notre état de spirituel, où ils sont. Peut-être on est un peu relâché, refroidir, peut-être on est un peu prendre le recul aussi, et nous pouvons examiner ensemble avant de prendre ce coupe et ce pain-là. Le monde est tellement changé et on peut influencer par pas mal des choses, des matériels, proposés par le monde aussi, d'ailleurs des fois par le Satan. Et des fois, nous vivons aussi comme ce monde aussi. Notre comportement. Et surtout, ce week-end-là, je sais pas que vous êtes influencé par quoi? Black Friday. Et, on a une tendance de, et mon cœur qui se bat, voir qu'est-ce qui se passe. C'est comme ça, peu à peu, et peu à peu notre vie, et ça peut être désordre. Le Seigneur peut nous aider, hein, nous être de trouver le chemin où nous sommes et réétablir une bonne relation avec le Seigneur. Prions ensemble. Oui. Seigneur, que tu es le centre de notre vie. Le monde est changé, mais tu es toujours là. Tu nous accompagnes, ta présence, ta parole, qui est la lumière dans ce monde. Que Seigneur, tu nous aides de purifier notre pensée, notre comportement, notre façon de voir, façon de vivre, et examiner et nous aider aussi vraiment trouver la paix en toi, Seigneur. Il n'y a que ta parole qui est la lumière qui peut nous conduit vers le chemin où tu nous demandes de le faire, Seigneur. Je prie en ton nom, Jésus-Christ. Amen. Voilà, comme Eliane, notre sœur, elle propose, c'est un peu la Sainte Cène, on va le faire, c'est un peu particulier, c'est que chacun peut prendre de coupe et de pain. En pensant que il y a les frères et sœurs qui n'ont pas ce droit, ce privilège de vivre en la communion fraternelle avec nous, et nous pensons fortement pour eux, n'importe quelle situation, n'importe leur nom, leurs difficultés, mais nous pouvons le faire que Seigneur qui soit avec eux et que vraiment qui trouve la paix en Jésus-Christ.